Donc je vais essayer de vous présenter aujourd'hui une réflexion plutôt socio-phonétique, du coup pas trop acoustique, de l'accent et principalement dans un objectif didactique, donc didactique des langues additionnelles pour voir que peut nous apprendre la socio-phonétique en tout cas sur cette approche-ci. Donc je ne m'appuierai pas trop sur une approche corrective qui je pense est assez diffusée dans le domaine de la didactique des langues pour essayer d'aborder une approche un petit peu plus sociale de cette question de l'accent. Alors justement, je m'apprivoisais finalement une approche socio-phonétique qui théorise bien le fait qu'on va s'intéresser à l'agentivité des individus plutôt qu'aux forces internes, internes à la langue, qui vont déterminer les accents. Alors bien sûr, je ne suis pas dans une opposition qui serait une opposition acoustique de l'accent ou phonétique et une approche uniquement sociale. Bien sûr, les deux se rejoignent, mais aujourd'hui, je vais prendre un point, en tout cas un point de vue, qui sera plutôt du côté de l'agentivité des individus et voir comment les individus peuvent participer dans l'interaction. Alors ici, il y a un certain nombre de chercheurs et de chercheuses reconnus et experts dans ce domaine des interactions. Bon, je ne vais pas rentrer dans une analyse très approfondie interactionnelle aujourd'hui, mais je vais présenter en tout cas comment la question de l'accent peut jouer sur le plan interactionnel et comment en didactique, finalement, on peut aborder cette question de l'accent en renversant ce rôle de la correction vers une forme de médiation et d'agentivité sur l'accent.
Que veux-tu voir, ma reine ?
Miroir magique au mur.
Et donc on verra comment cette question esthétique de l'accent va se jouer sur le plan interactionnel et comment l'autre va nous renvoyer sa propre représentation de l'accent. Alors, j'avais prévu ça, mais je vais passer finalement plus rapidement aujourd'hui. Donc sur ces questions d'agentivité, j'ai fait une formation récemment à destination des enseignants de français en Argentine et je leur ai demandé si dans une conversation en français, on leur fait remarquer qu'on ne les comprend pas parce qu'ils ont un accent, quelle serait leur réaction. Et donc je leur ai demandé sur WooClap de hiérarchiser le type de réaction. Alors j'ai fermé le nombre de réactions possibles, bien sûr on pourra avoir beaucoup d'autres possibilités de type de réaction. Je me suis basé sur un travail que j'ai fait à partir d'anecdotes, donc j'ai fait une analyse de contenu à partir d'anecdotes et j'ai identifié des types de réactions qu'on peut avoir quand on est face à une situation où l'accent est thématisé, voire jusqu'à des formes de discrimination de l'accent. Et ce que je trouve intéressant ici, et c'est ce qu'on retrouve beaucoup, c'est que les deux premiers, c'est ce qu'on retrouve majoritairement, le premier c'est de justifier son accent en rappelant en tout cas qu'on est un locuteur plurilingue et qu'il est logique par rapport à sa propre histoire et son propre répertoire. Le deuxième, c'est de recourir à l'humour et au rire pour dédramatiser la situation. Alors, ce n'est pas toujours quelque chose d'agressif hein, sur l'accent. Ça peut être d'ailleurs une forme de glottophilie. Quand tous les jours, on nous dit « Ah, ben, t'as un accent qui est très joli, tu viens d'où ?» Au bon moment, ça peut être perçu aussi de manière un peu plus difficile. Et ce qui m'intéressait, en tout cas, c'est cette dernière phase, sa dernière proposition qui a été l'élément qui a été hiérarchisé le moins récurrent dans les réponses. C'est finalement de signaler à l'autre que de faire remarquer qu'on a un accent est quelque chose peut-être de déplaisant, voire de pas correct. Donc vraiment, on a cette prise en charge, ce qu'on retrouve beaucoup dans les anecdotes, c'est cette prise en charge finalement de l'accent en disant soit c'est ma faute, soit c'est logique, c'est normal. Mais peu de fois, on va retrouver cette possibilité d'agentivité de signaler à l'autre, en tout cas que ça ne nous plaît pas, le fait de, en permanence, de manière récurrente, d'être envoyé à notre accent avec tout ce que ça peut aller derrière. Alors, je vais justement essayer de travailler sur cette question un peu en miroir de comment l'autre va projeter sur nous des représentations sur l'accent. Et donc, j'ai retrouvé certains éléments, alors qui ne sont pas que des questions de langue additionnelle, on retrouve aussi d'autres phénomènes sur l'accent. Alors, j'ai trouvé, c'est un article qui est réel, une personne qui a une phobie de l'accent écossais et qui dit qu'elle se sent vraiment très mal quand on entend un accent écossais. On a plus récemment, dans une forme de dystopie, une start-up de la Silicon Valley qui promet de pouvoir supprimer en temps réel les accents, alors notamment pour les centres d'appel, en disant voilà, si on a un accent indien dans un centre d'appel, ça ne fait pas bien, ça fait peu sérieux. Et donc, plutôt que de traiter le problème social de cette question de pourquoi on discrimine sur l'accent, on va proposer de supprimer automatiquement par de l'intelligence artificielle. Alors, pour l'instant, ils ont une démo qui est accessible et gratuite. Je pense que derrière, il n'y a pas grand-chose. Je pense que c'est surtout pour la levée de fonds. Et d'ailleurs, ils ont réussi, ils en sont à 30 millions d'euros, je crois, de levée de fonds. Il faudrait voir ce qu'il y a réellement derrière. A priori, ils disent que certaines entreprises l'utiliseraient déjà. Bon, je suis assez dubitatif quand on parle justement de start-up, de ce qu'il y a vraiment derrière l'algorithme qui est vendu pour lever des fonds. Et il y a ce film-là qui traitait un petit peu de ces questions et que je trouve assez intéressante et parlante sur ces questions.
Let me give you a tip. You want to make some money here? Use your white voice.
My white voice?
I'm never talking about Will Smith's wife. Like this young blood.
Hey, Mr. Kramer, this is Langston from Regalview.
Alors, encore une fois, ce soir, je vais m'intéresser surtout à la question des langues additionnelles et je vais moins m'intéresser à d'autres facteurs qui rentrent dans la perception des accents. Mais voilà, en tout cas, c'est un ensemble de choses qui sont à prendre en considération quand on s'intéresse à l'accent. Alors, un petit... comme encore une fois, je travaille sur l'accent et l'oral, je trouve toujours important et intéressant d'avoir des extraits audio qui donnent des éléments sur ces questions d'accent. Et donc, je vous ai proposé une petite écoute sur cette question.
Accenté.
Accento.
Accenti.
Vous avez un accent tellement frappant en français. En anglais, il est aussi marqué.
C'est pas nécessairement un accent tout à fait français, ni... c'est un accent qui est un peu. C'est comme. Il essaie un peu trop d'avoir un accent.
Bon alors, est-ce qu'il faut s'insurger contre un accent ?
Et sans être Sherlock, vous avez peut-être compris à mon accent que j'étais français, mais avec des origines indiennes.
Une mauvaise prononciation.
Des mauvaises prononciations.
La mauvaise prononciation.
Mauvais.
Pour que je prononce mieux, ça vous mette pas terriblement à l'aise.
Mon accent, en réalité, est la preuve du rayonnement de la langue française et de son attractivité dans le monde entier.
Eva Jolie, j'y reviendrai parce que c'est un petit travail que j'ai mené avec des étudiants A2 de français langue étrangère. Et voilà, on va revenir un petit peu dans cette conférence sur l'ensemble des représentations et d'ailleurs la préexistence des représentations qui existent sur l'accent parce que bien sûr, elle ne s'applique pas à une seule personne, elle s'applique à toute une histoire finalement. On va le voir avec Monica Bellucci sur la question de l'accent italien, etc., etc. Et par ailleurs, ça peut bouger. Alors aujourd'hui, je crois que si je vais traiter d'Eva Jolie, donc j'en parlerai tout à l'heure. Alors juste pour revenir, ça a été une question que j'ai eue justement dans mon audition du poste que j'ai eu cette année. Vous allez le voir, j'ai beaucoup m'intéressé à l'individu en ayant une position assez comment on peut accompagner les individus sur ces questions sur l'accent. Et on m'a posé la question, oui mais du coup si on le traite de manière individuelle, est-ce que ça veut dire que c'est la faute de l'individu qui doit corriger ou faire remarquer ces questions d'accent ? Alors moi, dans mes travaux, je m'intéresse principalement aux individus, ce qui ne veut pas dire que, de manière complémentaire, il faut travailler sur des questions institutionnelles et de société sur le plan macroscopique en s'intéressant. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur le principe de glottophobie, ce qu'on y met derrière. Bon, je le prends comme un grand chapeau, en tout cas, et je ne le questionne pas tellement ici. J'utilise glottophilie, bon, ça n'a pas été trop théorisé, mais encore une fois, il y a ce double rapport-là, aimer, ne pas aimer, faire remarquer, ne pas faire remarquer les accents. Mais donc tout ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est parce que finalement, je prends une position d'enseignant de classe, de dispositif, et donc moi, j'ai directement accès à nos étudiants. Donc moi, je les accompagne sur ce plan-là, mais je pense qu'il est déterminant et important que la société se saisisse de ces questions d'accent. Alors, il y a eu une tentative de passer une loi sur la discrimination sur l'accent. Alors, c'est toujours pas clair si elle a été votée ou pas. Je crois que ça a été repoussé à cause du Covid. Donc, les politiques s'en saisissent avec plus ou moins de bonne volonté humaniste. Mais ce n'est pas, en tout cas, deux choses pour moi qui sont opposées. Ce sont deux choses complémentaires. Mais en tout cas, dans mes travaux, je m'intéresse plutôt comment accompagner les individus qui sont en insécurité, comment construire, participer à leur sécurité linguistique et donc notamment comment leur donner des clés sur des réactions à avoir quand on les confronte à ces questions d'accent. Alors, un exemple, j'ai essayé encore une fois d'illustrer un petit peu toutes ces questions-là. Alors, sur le plan interactionnel ici, c'est très intéressant. On va le voir notamment sur le rôle qui vont se jouer entre les deux participantes de... c'est Christina Cordula, mais je ne sais plus l'émission, je la perds aujourd'hui. Alors, on écoute.
Allez, je sais que tu vas m'engueuler, mais on regarde.
Écoute, il y a des trucs que j'ai pas compris.
Ben moi non plus, hein.
Mais voilà, regarde comment tu es stylé.
Mais oui, mais pourquoi tu dis e-style? Il y a pas de i. Pourquoi tu dis e-style? C'est pas ton e-style, ma chérie. Pourquoi tu mets le i tout le temps?
Mais j'ai mis un s, e-stylé.
Oui, mais tu mets le i avant le style. Tout le temps, pas con.
Alors il faut que je fasse stylé.
Sérieux, c'est dur, hein.
Stylé. Ah, vous arrivez
pas.
C'est
pas ton style.
Stylé. Merci de m'en apprendre parce que tu sais que les gens me disent pas.
Mais moi, je te le dis.
Eh ben merde.
Alors on voit ici que finalement la verticalité interactionnelle est renversée puisque Christina Cordula normalement est la juge, elle est censée juger. Alors c'est une instagrammeuse et finalement on va la renverser parce que l'instagrammeuse et elle est la locutrice dite légitime parce que native et donc elle a tous les droits en tout cas pour renverser. Alors bien sûr on est à la télévision et certainement tout ça est un tout petit peu calculé, certainement beaucoup calculé, mais on voit encore une fois comment on a ce double rapport qui va se mettre en place. Alors on a une forme d'hétérocorrection qui est faite par l'instagrammeuse avec par ailleurs une autocorrection. Alors j'ai mis des petits astérisques parce que correction, voilà, je me pose dans une position dans un autre paradigme que la correction. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une imitation qui est exagérée de l'activation croisée avec le portugais brésilien de Christina Cordula puisqu'elle dit istilé et l'instagrammeuse va la corriger, enfin va la reprendre en disant istyle. Donc elle rajoute en plus quelque chose qui viendrait de l'anglais qu'elle n'avait pas produite à la base. Donc elle met un deuxième phénomène finalement d'activation croisée avec le portugais brésilien et avec l'anglais. Alors on le revoit encore une fois le rire qui joue une place très importante dans ces interactions-là, ou en tout cas on peut partiellement, alors là c'est pas le cas, mais se sentir menacé par le fait d'être jugé ou de renverser la légitimité interactionnelle par rapport à ces questions de être natif, non natif, avoir un accent, ne pas avoir d'accent. Et ce que j'aime beaucoup dans cet extrait-là aussi, c'est que finalement on va construire petit à petit dans l'interaction l'idée que parce qu'elle n'est pas native du français, elle n'arrivera pas à prononcer ce son-là. Et donc, l'une dit « tu vois, c'est dur », Christina Cordula dit « j'y arrive pas », sauf que quand on écoute précisément, en fait, elle arrive dès la première répétition à prononcer le « stylé ». Alors, elle allonge finalement la consonne fricative pour arriver à empêcher d'avoir une voyelle au début. Mais dès le début, elle arrive à produire ce qui est attendu selon la norme, mais jusqu'à la fin, elle co-construit le fait qu'elle n'arrive pas, c'est trop difficile et qu'elle n'y arrivera pas. Et pour terminer, on voit aussi la construction du fait qu'on a une survalorisation de la correction par les autres. Et donc, Christina Cordula se plaint que les gens ne la corrigent pas ou ne reviennent pas, en tout cas, sur ses productions non conformes à la norme. Et donc, ici, l'instagrammeuse se valorise en disant « mais tu vois, moi, je te le dis, moi, je le fais, donc... on est, tu es contente dans, cet échange-là. » Alors, un autre exemple de ces interactions, alors, pour resituer le contexte, c'est lors des présidentielles de 2012. Donc, Eva Joly était candidate. Et on a Patrick Besson, donc, qui était, je ne sais plus si c'était pour les Républicains à cette époque-là ou pas encore, bon, c'est pas grave. Donc, il a fait toute une tribune, ici qu'on peut voir, donc, pour se moquer de l'accent d'Eva Joly, en prétendant que parce qu'elle n'était pas capable de bien prononcer un français standard, elle n'était pas en tout cas légitime pour briller, en tout cas les présidentielles. On avait eu le même phénomène avec Karl Lagerfeld qui avait dit que vu son accent, c'était impossible qu'elle puisse devenir présidente. Et donc là, je vais m'intéresser à une interaction avec Laurent Ruquier, pardon. Alors, on est sur de l'impolitesse spectacle. Donc, bien sûr, le but, encore une fois, de ces émissions-là, c'est de provoquer, de vexer, d'être dans l'impolitesse. Et je vais vous proposer deux extraits, un sur Eva Joly, un sur Monica Bellucci, sur comment, finalement, l'accent devient un thème de discussion et de vexation dans ces émissions-là. Donc, je vous montre pour Eva Joly.
Des choses bien, oui, comme la sortie du nucléaire.
Mais avant de revenir au fond de votre programme et à l'écologie justement, et pourquoi pas à la sortie du nucléaire, Natacha et Audrey auront sûrement des questions là-dessus, n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous aviez conscience que votre double nationalité, et même que votre accent, on sait, ça a même créé la polémique avec Patrick Besson, on a parlé sur ce plateau, serait à ce point un handicap dans votre campagne? Est-ce que vous aviez conscience de ça au départ?
Non, parce qu'en fait, ça fait 50 ans que je vis en France, ou 40 et quelques, si je décompte les années en Norvège récemment, et mon accent... et ma double nationalité n'a jamais été un problème.
Pourquoi il sous-titre alors?
Non, il sous-titre pas. C'est du bassi. Est-ce que... ça m'amène à une deuxième question. Est-ce que vous réussissez à avoir de l'humour là-dessus ou est-ce que quand même ça finit par vous agacer?
C'est vrai que la chronique de Patrick Besson m'a vexée. Et c'est pour ça que j'ai répondu à cette chronique. Mais sinon, bon, je me dis que mon français a été suffisant pour requérir un cours d'assises, a été suffisant pour mener mes combats. Et je pense que les Français me comprennent bien.
Oui.
Et donc, c'est...
plus que si je parlais norvégien, je vous rassure.
Voilà.
Mais je crois que le problème, c'est pas tellement cette question-là, parce que vous êtes française et personne ne le nie, à part quelques extrémistes ou quelques fous. Le problème, est-ce que vous ne vous êtes pas posé la question? Vous avez une impopularité assez forte. Un dernier sondage l'a montré. Quand même, 71% des Français qui ne vous trouvent pas sympathique. Est-ce que vous ne vous demandez pas si ce serait pas dû au fait que c'est que eux ont l'impression que vous ne les aimez pas? Et qu'en cela, vous êtes représentative d'une frange de la classe politique française qui finalement déteste l'idée de nation, parce que c'est ça qui est derrière toutes vos prises de parole, que ce soit sur le 14 juillet, quand vous fustigez.
Donc ici, on voit en tout cas Eva Joly qui refuse le cadre interactionnel qui lui est proposé. Alors il y a des choses avant, il y a des choses après, ça pourrait être beaucoup plus long, en tout cas, à analyser. Mais elle refuse en tout cas, à ce moment-là, le fait d'associer son accent avec une forme de légitimité politique sur la question de la présidentielle. Alors, la première chose qu'elle utilise, en tout cas, c'est de rappeler que, certes, elle est franco-norvégienne, mais elle est en France depuis très longtemps. Ce qu'on voit encore une fois, c'est qu'elle essaie de se repositionner dans cette verticalité en indiquant qu'elle a pu recourir en cour d'assises et que donc elle a cette légitimité-là de locutrice légitime, qui est capable professionnellement, en tout cas, de réussir, j'allais dire, malgré, on va dire, son accent ou et son accent. Et aussi un deuxième phénomène qui m'intéresse beaucoup, c'est une forme de réhumanisation du propos qui est, comme je l'indiquais tout à l'heure, on a tendance à banaliser, à normaliser le fait d'avoir des réactions sur l'accent, de signaler qu'on a un accent, et c'est de dire ici qu'elle a été blessée finalement profondément par cette façon de traiter en tout cas la question de son accent, et ce qui a provoqué le fait qu'elle réalise une vidéo. Je ne sais pas si vous aviez vu cette vidéo-là, je vous mettrai un tout petit extrait à la fin, où elle avait fait tout un clip où il y a tout un nombre de militants des écologies, c'était pas encore Europe Écologie Les Verts, qui venaient dire voilà, qu'ils étaient français avec un accent, etc., etc. Donc là, elle est vraiment sur ce refus d'accepter le cadre qu'on lui impose, qui est de dire que accent égale une forme d'illégitimité, même si après, ce qu'on voit, c'est que notamment Natacha Polony remet une question politique au-delà de la question pure et simple de l'accent. Et on a une forme de réparation ici par Laurent Ruquier qui dit « Bon d'accord, je te taquine sur ton accent, mais c'est vrai que moi aussi, moi je suis incapable de parler norvégien, et ça serait certainement encore pire si je le faisais. » Alors, un autre exemple que je trouve aussi assez intéressant sur la question aussi de la voix, je parle beaucoup de prononciation, c'est les éléments segmentaux, mais on a ici beaucoup de choses sur la voix, et donc c'est l'inverse. On a Monica Bellucci, alors, qui part d'un a priori beaucoup plus positif, puisque vous allez le voir, on va construire le fait que c'est une femme fatale, que forcément son accent est beau parce qu'elle est belle elle-même. Alors ça aussi, je ne traite pas la question des différences de traitement des accents entre les hommes et les femmes, mais on voit clairement que la femme, très rapidement, son accent, notamment à la télévision, c'est quelque chose qui est marketé, qui est calculé, qui est fait exprès, alors que les hommes, on ne voit pas les mêmes types de remarques qu'on peut avoir. Ça dépendrait peut-être aussi des types d'accent sur lesquels on peut retrouver. Alors je vous fais écouter l'extrait aussi et après je le commente un tout petit peu.
Monica Bellucci, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Monica, vous avez toujours cet incomparable accent qui nous fait voyager.
Sur les chemins, dans ton automobile, tous les deux on sera bien.
Lilicube.
Et dans le ciel, il y aura des étoiles.
Lilicube voyage en Italie en hommage à Monica Bellucci.
Merci.
Alors, Monica, c'est un accent que vous avez vraiment ou vous faites semblant parce que votre agent vous demande de garder cet accent?
Maintenant, je l'ai. Je voudrais parler parfaitement, mais je n'arrive pas.
Ouais, parce que vous êtes un peu la Jane Birkin italienne.
Écoutez, j'adore Jane Birkin, merci pour la comparaison.
Ouais.
Mais voilà, l'accent est là, et quand je travaille en effet dans un film en français, je dois avoir un coach à chaque fois pour que l'accent soit le strict minimum.
Alors, il y a l'accent, il y a la beauté, parce que l'accent sans la beauté, ça ne marche pas.
Un fantasme, ça vous agace, ça vous flatte, ça vous laisse indifférente?
Mais ça m'amuse, surtout, aussi parce que, je veux dire, maintenant je suis une femme adulte, du coup, d'être considérée fantasme, ça me fait un peu rire.
Il vous arrive de jouer de votre image, Monica Bellucci?
Tous les jours, chaque moment.
Je suis une femme.
Je vous pose la question parce que la pression qui est exercée sur les femmes, précisément, la pression de l'image, vous la ressentez, vous ?
Mais la pression, je crois, de l'image est aussi sur les hommes. Regardez les hommes aujourd'hui, ils s'étendent les cheveux, ils font des piqûres de partout. Il faut arrêter de parler qu'il y a des femmes. Non, les voyez... hommes, ils sont sous la pression aussi.
Voilà Frédéric Weiss.
Incroyable, bravo,
voilà. Alors Monica, vous avez été élue de nombreuses fois femme la plus belle du monde. Ça a commencé très jeune.
Alors voilà, donc j'ai... Bon, je vous ai donné que deux extraits ici, j'en ai analysé d'autres. Et c'est vrai qu'ici, elle va jouer justement avec le cadre. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est cette voix soufflée qu'elle surjoue ici, dans ce côté, voilà, tu me provoques dans cette image de femme fatale, ben, je vais mettre le paquet. Elle accepte aussi tous les stéréotypes en disant, d'accord, il faudrait que je travaille mon accent, j'essaie de le travailler. Et ce que j'aime beaucoup, finalement, par rapport à tous les extraits que j'ai pu comparer, alors c'est beaucoup Laurent Ruquier ou Thierry Ardisson, parce qu'on est dans ce cadre de l'impolitesse spectacle, c'est que finalement, cette stratégie, c'est celle qui fonctionne le mieux, vous voyez, qui provoque, ben, écoute, oui, parce que vous êtes un peu la Jane Birkin italienne, donc elle aurait pu réagir. Il y a un autre cas d'une autre comédienne qu'on compare à Jean-Claude Van Damme, et elle, au contraire, elle s'énerve, elle dit non, non, ça n'a rien à voir, et ça ne marche pas du tout, et au contraire, l'interaction est de pire en pire, finalement, et ça fonctionne de moins en moins. Alors qu'ici, elle dit, bah, d'accord, oui, Jane Birkin, c'est génial, très, très belle femme, très comédienne talentueuse, ben, ouais, il ne sait plus quoi dire. Parce que justement, ce qu'il cherche, c'est de provoquer, c'est de vexer, et ici, en tout cas, ne lui donne pas des éléments pour venir nourrir cette vexation. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Encore une fois, ici, tout est très à son avantage. Donc forcément, c'est plus facile pour elle. Jean-Claude Van Damme, c'est un tout petit peu moins valorisant que d'être comparé à Jane Birkin sur ces questions-là. Mais je trouve aussi que ces éléments de voix sont très importants. Cette voix soufflée qu'elle prend exprès. Enfin, on imagine, on ne peut pas non plus... Il faudrait voir dans d'autres situations moins contrôlées qu'à la télévision. Mais qui renforce en tout cas le fait de jouer avec le cadre. Alors, un autre exemple, en tout cas sur ces questions d'accent, donc c'est les travaux de Jeanne Meyer. Donc, elle s'est intéressée dans sa thèse sur la place des accents dans le monde du prêt-à-porter. Et donc, elle a fait entendre un certain nombre de productions sonores à des locuteurs naïfs. Et elle leur a demandé, sur deux échelles, d'évaluer est-ce que la vendeuse a un accent ou n'a pas d'accent. Et si, selon les auditeurs, la façon de parler de la vendeuse est un atout ou un obstacle. Alors, ce qui est intéressant, alors il y a des choses qui sont plus ou moins attendues, heureusement ou plutôt malheureusement, on va dire. C'est la première chose, c'est que dans certains cas, on retrouve que le fait d'avoir peu d'accent dans ce cadre-là est perçu comme un atout professionnel, en tout cas dans la relation client-vendeuse. Mais on voit que la réciproque n'est pas valable. On a des personnes qui, en tout cas, on déclare qu'elle a un accent, d'ailleurs même un des plus forts accents sur cette échelle-là. Mais en même temps, ça reste un atout d'avoir un accent. Donc on reviendra un tout petit peu sur cette relation qui existe entre intelligibilité, accent, expertise. On voit qu'elle n'est pas unidirectionnelle, et au contraire, elle est très complexe. Et donc c'est pour ça que je m'intéresse plutôt dans une approche qualitative pour mesurer ces liens multiples qu'il va y avoir. Et notamment, on va retrouver comment on peut expliquer qu'une personne qui va avoir un accent, ça peut se retrouver soit dans le fait que ce soit un atout, soit dans un obstacle. C'est que ça va bien sûr dépendre de la préexistence de ces accents et des relations qu'on peut avoir. Donc dans le prêt-à-porter, il y avait une des vendeuses qui était franco-anglophone. Et donc dans ce cas-là, avoir un accent anglophone quand on fait de la vente de prêt-à-porter, ça marche parce que l'anglais, c'est la mode, c'est le style. Et donc si j'ai un accent anglais, ça marche très bien. Malheureusement, et comme vous vous en doutez, si j'ai un accent plutôt, alors franco, j'ai repris la thèse, hein, franco-arabophone ou africanophone, c'est même si ça ne veut rien dire, parce que bien sûr, avec toute la diversité qu'il y a dans ces aires géographiques et langagières, mais dans ce cas-là, c'est perçu comme négativement par rapport aux attentes qu'on peut avoir de l'expertise verbale d'une vendeuse dans le prêt-à-porter. Donc on est vraiment dans ces relations complexes qui vont avoir entre à la fois sur le plan synchrone et sur le plan plus historique de la relation aux langues. Et ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est par rapport à Eva Joly, on voit qu'il y a eu toute une transformation politico-médiatique de la relation avec son accent, parce qu'avant le fait qu'elle se présente comme potentielle au présidentiel de 2012, on retrouve dans des journaux le fait qu'elle a un accent très chantant, très agréable, très musical. Et dès qu'on a Patrick Besson qui a fait sa rubrique, on n'a que des versions comme quoi son accent est froid, distant, dur, et ce qui irait avec la personne, bien sûr. Enfin, les traits que l'on appose sur l'accent iraient avec les traits de personnalité de celui ou celle qui l'a produit. Donc ça peut se faire même au niveau d'une dizaine d'années, ça peut largement évoluer sur le plan médiatique. Encore une fois, bon, là, c'est certainement piloté aussi de manière politique pour essayer de détruire sa candidature. Alors, un exemple que j'aime beaucoup aussi, alors c'est quelque chose qui date un tout petit peu, et malheureusement, ce n'est pas très détaillé. Alors, elle est souvent reprise, mais je n'ai pas trouvé trop de détails dans l'étude, mais je trouve qu'elle est assez intéressante. Et donc, le principe, ça a été de présenter à des individus un même objet sonore. Alors, c'était des conférences, je crois, en sciences exactes et en sciences humaines. Et alors, c'est exactement le même fichier audio de 5-10 minutes, je crois. Et simplement, on présente deux photos différentes. Alors, ce n'est pas ces photos-là, c'est pour illustrer. D'une personne avec un phénotype plutôt asiatique et un plutôt caucasien. Et ensuite, on demande aux auditeurs, est-ce qu'ils ont entendu un accent, avec un degré, bien sûr. Et selon eux, est-ce que la personne était plus ou moins experte de son domaine? Donc, simplement, à l'écoute de ces petites conférences et en mettant une image différente, on demande aux personnes, voilà, est-ce qu'on entend un accent ou est-ce que... Bon, ça, c'était une illustration. Mais c'est pas ça. Et donc, les résultats qu'on trouve à la fin, c'est que les individus ont attribué des perceptions d'accent sur la base de préjugés. C'est-à-dire que simplement, avec le même fichier audio, en présentant deux photos différentes, les personnes, statistiquement, ont entendu un accent chez la personne qui n'était pas de phénotype caucasien. Donc, c'est aussi un élément important quand je fais des formations, des enseignants qui me disent « Oui, mais dans tous les cas, nos étudiants vont se retrouver face à des discriminations sur l'accent. Donc, c'est pour ça que je veux les aider à corriger ou à supprimer leur accent. » Sauf que le problème, c'est que même s'ils arrivent à supprimer leur accent, on va avoir ces biais-là qui sont que l'apparence physique, les attendus sur l'apparence physique ou d'autres éléments connexes au verbal vont faire qu'on va recréer l'impression d'entendre un accent. Et ce qui est encore plus important à noter quand même, c'est que le fait de percevoir et de croire qu'il y a un accent, je crois que c'est juste après, pardon. Oups, non, c'était pas là. Le fait de percevoir un accent a fait penser statistiquement que les personnes étaient moins expertes de son domaine. Donc si j'ai un phénotype asiatique, ou ça peut être plein d'autres choses, qui n'est pas congruent en tout cas avec le non-accent ou accent attendu, bon là c'était en anglais, on va croire qu'on entend un accent et en plus on va considérer que la personne est moins experte que si elle est considérée comme caucasienne avec un accent standard, normé, avec tout ce qu'il y a derrière. Je vous évite de développer en tout cas dans le détail. Alors c'est un petit peu ce que j'ai appelé, juste pour aujourd'hui, je ne l'ai pas théorisé non plus, c'est un peu l'effet pot de yaourt parfumé. Vous savez que quand on voit l'étiquette avec une banane, on se dit « ah ben oui, c'est la banane », et si on n'a pas l'étiquette avec la banane, ben, honnêtement on peut dire que c'est la fraise ou la framboise, et on ne sait pas trop ce que c'est. Bon, j'ai essayé de chercher des études sur ça, et finalement je n'en ai pas trouvé vraiment, alors je ne sais pas si c'est juste une expérience ou est-ce que réellement on peut le démontrer statistiquement. Mais alors c'est aussi des collègues bon, assez connus aussi sur les accents, Boulet de Mareuil et Avanzi qui ont travaillé sur ces questions. Et donc ils ont essayé de travailler sur la distinction sur quatre grands groupes d'accents de la francophonie, dont la France septentrionale, méridionale, Suisse et la Belgique. Et ils ont redupliqué le même type d'expérience avec des accents dits étrangers par rapport à la France. Ce qui est intéressant, c'est que dans leurs travaux, ils ont montré que les auditeurs, bon, il n'y en a que 25, alors statistiquement, on montre des choses, mais ça reste que 25. Statistiquement, ils ont montré que les personnes étaient meilleures pour reconnaître les accents dits étrangers que les accents dits régionaux. Donc pour eux, c'était plus facile de les identifier que par rapport à des accents qui, théoriquement, font plus partie de leur espace personnel. Alors, on leur a proposé à ces auditeurs 6 accents différents. Et donc, les accents les mieux identifiés parmi ces derniers, donc c'est d'abord l'accent alors, dit arabe, encore une fois, bon, c'est très simplifié, on pourrait aller plus dans le détail. Donc leur théorie, c'est que le fait que dans la vie de tous les jours, en tout cas, c'est peut-être un des accents sur lequel on peut, peut-être dans les grandes villes aussi, il faudrait voir en détail les biais qu'il y avait par rapport au panel, mais le plus l'habitude. Après, on a l'allemand, l'anglais, le portugais, l'italien et l'espagnol, vous voyez, en dernier, 25%, alors que je pense que quand même, globalement, de manière spontanée, on a l'impression que l'espagnol, on arrive très bien à l'identifier par rapport à d'autres langues. Et justement, sur cette question de l'espagnol, elle se demandait avec quoi l'espagnol a pu être confondu. Alors l'allemand, pas trop. Bon, je pense qu'en termes de famille de langue, on s'en doute un petit peu. L'anglais, pas trop non plus. L'arabe, un peu plus, mais pas tellement. Bon, l'espagnol et forcément l'italien et le portugais. Bon, il y a des choses qui sont plus ou moins étonnantes, plus ou moins attendu aussi par rapport aux familles de langues. Mais globalement, quand on regarde ici les résultats, on voit qu'on n'est pas si bon pour finalement identifier les accents s'il n'y en a pas d'autres éléments qui nous permettent de le déterminer. Bon, sachant que le hasard, c'est à peu près 50%, on en a quand même des choses qui sont au-dessus du hasard, mais quand même, ça reste, à mon avis, un petit peu en dessous de ce qu'on pourrait penser, surtout sur des langues quand même sur lesquelles on est assez bien sensibilisé dans nos vies de tous les jours. Alors, juste pour revenir, comme je savais qu'il y avait différents types de personnes aujourd'hui, alors j'ai des choses plus ou moins qu'en public et plus ou moins... Voilà, donc la manière dont je vais essayer de définir l'accent, c'est un ensemble de traits de prononciation qui sont liés à différentes origines, donc ça peut être linguistique, géographique, social, bon, je simplifie, il y en a beaucoup d'autres. Et donc ce qui m'intéresse souvent à revenir, c'est cette fabrique à accent. Alors, encore une fois, aujourd'hui, je pense que je vais aller rapidement sur ces points-là. Souvent, c'est par rapport aux enseignants que je forme. C'est de rappeler, donc on a besoin d'un locuteur, on a besoin d'une onde sonore, on a besoin d'une oreille. Alors c'est là souvent où je m'arrête le plus avec les enseignants en formation, c'est de rappeler que l'oreille ne fait rien, d'accord ? L'oreille c'est juste un transmetteur, sauf si on a une pathologie. Et on va retrouver dans cette onde sonore un certain nombre d'éléments récurrents ou stabilisés qui vont être plus ou moins, en tout cas, un faisceau qui va être plus ou moins correspondant à des types d'activation croisées entre des langues. Donc, par exemple, le dévoisement des plosives pour l'allemand, le mouvement du E vers le I pour l'arabe, la confusion peu, be, se, ze, u, ou pour l'espagnol, et fermeture du schwa pour le portugais. Alors, tous ces éléments-là, ils sont dynamiques, et donc, on ne va pas tout le temps les retrouver. Donc, ça, c'est un point sur lequel je m'arrête souvent. C'est que toutes les études, alors qui sont très intéressantes, très utiles pour la didactique des langues, qui permettent de cartographier un petit peu ces activations croisées entre les langues, l'avantage qu'elles ont et le désavantage, c'est que c'est souvent des études statistiques. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On prend toutes les données homogènes et on enlève tout ce qui est un petit peu trop aux écarts. Et donc, forcément, quand on fait ça, on trouve que oui, les hispanophones, globalement, ont tendance à confondre le U et le O. Sauf que dans la réalité, et quand on sort de ce phénomène d'homogénéisation, on voit que très rapidement, il y a des apprenants qui vont arriver à maîtriser le U et sans trop de problèmes. Alors, il y a un certain nombre de théories qui nous expliquent aussi pourquoi, parce que c'est quand même phonétiquement et acoustiquement deux sons très différents, et donc c'est plus facile de créer une catégorie quand on le travaille de manière métalinguistique. Mais en tout cas, c'est un des éléments sur lequel je me positionne aussi, c'est de dire qu'il y a beaucoup plus de variabilité à l'intérieur même de ces activations entre deux langues, et qu'il est important de les prendre en considération quand on accompagne, en tout cas pour l'apprentissage, parce qu'on en a certains qui vont aller très rapidement et certains qui vont aller beaucoup plus lentement sur ces questions. Et parfois, d'ailleurs, on va avoir des phénomènes de vases communicants. Dès qu'on met en place le U avec les hispanophones, on a le O qui devient un U. Voilà, donc ça, c'est vases communicants et on doit le travailler comme un système global, en tout cas. Alors, c'est là où, en général, je rappelle toujours que l'oreille ne fait rien. C'est le cerveau qui pose ces questions, en tout cas, d'activation croisée entre les langues. Et donc, tout le travail didactique, il porte sur cette, entre guillemets, avec des gros mots, remédiation cognitive, puisque l'oreille n'est juste un transmetteur. Mais il me semble important que cette métaphore, alors qu'il paraît un petit peu anodine, quand même est importante, parce que l'oreille, ça a quelque chose quand même de physiologique, qui est quelque chose, enfin, on ne peut pas changer son oreille. Le cerveau, oui, lui, il est en plasticité permanente. Et donc, on a une marge de progression et un travail possible à tous les âges. Bon, je ne parlerai pas aujourd'hui de la période critique, etc. J'y passerai rapidement. Et donc, j'aime bien définir l'accent comme la régularité, ça me semble important, le terme de régularité, d'un faisceau d'éléments phonético-phonologiques qui participent, mais qui ne sont pas les seuls, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à l'identification cognitive d'un accent. Donc, encore une fois, ce qui est très important de voir, c'est que l'identification ou la perception de l'accent va dépendre surtout, ou beaucoup, de l'auditeur, qui aura plus ou moins l'habitude d'entendre des accents. On le retrouve au niveau A1 du CECRL sur la compétence phonologique. Je suis A1 si la personne elle est capable de me comprendre parce qu'elle a l'habitude d'écouter des personnes qui parlent comme moi. Bon, je simplifie, c'est pas exactement les termes, mais on retrouve un petit peu cette idée-là. Et donc, c'est cette idée que l'accent est un construit, puisque c'est quelque chose de social qui va être fait, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, avec des représentations, des stéréotypes, en fonction de l'histoire de chacun et de chacune. Et c'est aussi un système dynamique qui évolue en fonction des contextes personnels, du répertoire langagier, etc., etc. Et notamment, on retrouve beaucoup, j'ai beaucoup été confronté avec les étudiants qui viennent du sud-est asiatique, on retrouve souvent beaucoup d'interférences, enfin, d'activations croisées avec l'anglais, qui viennent au milieu avec leur langue première, et donc c'est tous ces éléments-là qu'on doit prendre en bloc quand on travaille en tout cas sur ces questions de prononciation. Bon, rapidement, pour me positionner par rapport à mes travaux, c'est que finalement, les questions de travail didactique sur la prononciation, en général, elles s'intéressent, alors j'aime bien prendre la courbe de Gauss, à cette petite partie des étudiants qui aiment la phonétique, qui ont des capacités facilitantes. Alors, ça peut être, par exemple, dans mes travaux, j'ai montré que avoir fait de la musique pendant très longtemps, il faut que je fasse très attention à comment je l'exprime, mais favorise la capacité de traitement acoustique et phonétique des sons, mais pas phonologique, c'est là où ça devient plus complexe. Qui cherchent, par exemple, à atteindre le français de référence. Donc, on a des étudiants qui viennent dans certains cours ou formations en disant, voilà, moi, je veux tel type de français parce que esthétiquement, c'est celui que j'aime ou parce que professionnellement, c'est le qui a le plus de sens ou un rapport esthétique au français. Donc, ceux-là, ce sont les étudiants qui viennent dans les cours de prononciation et qui sont impliqués, mais ce n'est pas la majorité souvent et ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas la prononciation, mais parce que, justement, ils ont un autre objectif que celui qu'on peut viser dans les cours. Alors, soit qu'ils n'aiment pas la phonétique, il y en a aussi beaucoup qui ont été traumatisés par la phonétique, qui ont des facteurs limitants, alors par exemple des pathologies de l'audition qui peuvent justement limiter cet accès à l'input auditif, qui ont des craintes aussi sur la question de l'identité. Si je change mon accent, qu'est-ce que ça va provoquer en tout cas sur mon identité, sur mes origines culturelles, ou qui cherchent à atteindre un autre objectif, ce qui peut être l'intelligibilité, la compréhensibilité, etc. Et donc, mon objectif, c'est pas de dire, voilà, je mets un peu en opposition, je vais le montrer après, correction et médiation, c'est de dire que la correction, sur un plan très behavioriste, avec des exercices répétitifs qui visent à accéder à une norme, ça peut être un objectif des apprenants et qui est très important si c'est le leur, mais on peut aussi accompagner, on a une autre possibilité d'accompagner les étudiants vers une forme justement d'agentivité sur l'accent et leur capacité à choisir un autre objectif. Alors c'est Gauss, je ne sais pas si c'est fidèle à ce qu'il pensait vraiment, donc, j'ai pas cherché très loin, alors... et donc, ce qui m'intéresse aussi sur ces questions-là, c'est que depuis un certain temps, et notamment dans le monde anglophone, bon, même si ça a pris avec le CECRL en français, c'est qu'il y a eu quand même une transition petit à petit de ces objectifs, d'une norme du standard, alors avec en France encore plus forte certainement qu'en anglais, où on a un peu des choses polycentriques, même si on est sur des... Bon, on ne peut pas en parler pendant très longtemps, je ne vais pas le faire, à une norme externe qui serait l'auditeur ou l'auditrice, avec les travaux sur la compréhensibilité, l'intelligibilité ou la fluence. Ce qui m'intéresse souvent à rappeler quand même, c'est sur les travaux sur l'intelligibilité, c'est qu'on a tendance souvent à confondre intelligibilité et accent, ou en tout cas en pensant que parce qu'on a un accent, l'intelligibilité est forcément abîmée, on va dire, je n'arrive pas à trouver d'autres mots. Mais ce que nous disent bien, et donc Munro et Darwin, qui sont quand même un peu les sommités de notre question, c'est que la présence d'un fort accent étranger n'entraîne pas nécessairement une réduction de l'intelligibilité ou de la compréhensibilité. Donc on peut avoir un accent tout en étant tout à fait intelligible. Par contre, dans leurs travaux, ils montrent que l'inverse n'est pas vrai non plus. Donc ça veut dire que cette observation ne doit pas être interprétée à tort comme signifiant que le discours accentué est toujours pleinement intelligible et compréhensible. Donc ça ne nous aide pas forcément sur la didactique de dire tout et son contraire, mais en fait ce qui est très intéressant maintenant, et ce sur quoi travaillent un certain nombre de collègues, notamment Merano à Paris 8, c'est qu'ils essaient statistiquement de déterminer quels sont les éléments phonétiques ou phonologiques spécifiques à l'interaction de deux langues, donc par exemple français-anglais, français-espagnol, quels sont les éléments spécifiquement qui vont jouer sur ce phénomène d'intelligibilité en lien avec l'accent. Donc je peux garder avec mon accent, certainement qu'il y a des phénomènes d'activation croisée qui vont jouer sur l'intelligibilité, mais pas tous, et donc ça va être le dur travail en tout cas de l'enseignant de langue d'arriver à se positionner sur ne pas forcer à prendre un accent normé dans la langue cible, mais en même temps être capable d'améliorer, de travailler sur l'intelligibilité. Et en tout cas, moi, ce qui me pose problème dans cette approche, en tout cas, ou en tout cas de mettre le focus sur l'intelligibilité pour la question des objectifs de la didactique, c'est qu'on va reporter un objectif de l'apprenant sur un objet qui est hors de sa portée, puisque c'est l'auditeur. Donc on va lui dire, tu es niveau A1, si un auditeur qui a l'habitude d'entendre des personnes qui parlent comme toi, de te comprendre. Et niveau C1, alors C2, la première version du CECR, ils n'avaient pas, ils ont mis idem, après ils ont un petit peu amélioré quand même. Mais en tout cas, c'est dire à l'apprenant, je vais t'évaluer, ou tu vas t'auto-évaluer si on est dans une forme d'autonomie guidée, qui lui de dire, c'est pas toi qui va maîtriser ton objectif, c'est l'autre qui va te projeter, en tout cas, ton niveau. Alors, si on se positionne dans une approche par tâche, ça fonctionne, puisque c'est la tâche qui va valider, finalement, l'intérêt ou pas de travailler sur l'intelligibilité ou la prononciation. Alors, j'ai essayé de modéliser... il passe une petite quinzaine de minutes, ça va. J'ai essayé de modéliser, en tout cas, en didactique, les différentes possibilités qu'on peut retrouver quand on essaie de mettre en place un dispositif pédagogique. Alors, bien sûr, on est sur des axes extrêmes, et bien sûr, la réalité, on est toujours au milieu. Alors, on a un axe théorique qui est... va du behaviorisme avec tous les exercices d'automatisation dont on connaît et qui regorgent dans les manuels sur la prononciation, qui sont d'ailleurs majoritaires sur ça, sur le français. En anglais, il y a peut-être un peu plus varié, peut-être. En tout cas, il y a des exemples un peu plus variés. Vers une forme de socioconstructivisme, donc qui a été un petit peu le maximum qui a été de dire que tant qu'on se comprend, il n'y a pas besoin de travailler sur la prononciation. Ça a été une partie de l'approche communicative. On a un axe didactique donc, qui est soit de la correction, soit une forme de médiation. Bon, encore une fois, le terme médiation peut être très critiqué. C'est celui que j'ai pris, en tout cas temporairement, pour essayer de proposer quelque chose sur le plan didactique. Avec des questions d'objectifs, donc, qui est le fait d'adopter un accent majoritaire. Et donc, par exemple, en anglais, on peut retrouver tout ce qui est les phénomènes. Alors, en agrégation et CAPES, il y a beaucoup parlé de cohérence. Donc, si j'utilise l'anglais britannique, il faut que je sois cohérent et que je n'ai que l'anglais britannique. Qu'on peut retrouver en français, mais du coup, le pôle, il est simple, c'est le français standard. Il y a un peu moins de choix si on veut être normatif. Ou l'autre partie, qui est le fait d'assumer son accent en langue additionnelle, tout en travaillant, comme on l'a vu, sur l'intelligibilité quand même. Le but, ce n'est pas de dire vous gardez tout et on ne travaille pas, et si vous n'êtes pas compris, ce n'est pas grave. C'est vraiment de dire, voilà, on peut garder son accent tout en travaillant sur l'intelligibilité, compréhensibilité, fluence, etc., etc. Et l'axe pédagogique, qui est donc le fait d'accéder à un modèle, qui a été aussi très longtemps l'objectif, en tout cas, dans la méthode audio-orale, etc., etc., avec un autre objectif qui serait une forme d'agentivité. Et je m'arrête parce que je crois que je ne me suis pas arrêté sur la définition de l'agentivité, mais je me positionne sur l'agentivité, en tout cas sur la capacité des individus à mener une réflexion consciente sur les comportements qu'ils abordent. Donc être agentif, ça ne veut pas dire tout simplement être contre la norme et de dire que la variation c'est super. L'agentivité, c'est de dire, voilà, je sais pourquoi tel type d'accent me plaît, normé ou pas normé, ou de la variation. Qu'est-ce qui fait que je préfère celui-là? Peut-être parce que voilà, j'ai lu beaucoup de littérature française et pour moi, le français, c'est le français du 19e siècle, un peu poétique, romancé, imaginé, etc. etc. Et donc, c'est pour ça qu'il me plaît. Et donc, je décide consciemment de garder cet objectif-là. Ou pareil pour l'anglais, ça peut être, voilà, je regarde beaucoup de séries américaines et c'est... Bon, encore une fois, américain, ça ne veut rien dire. General American, je ne suis pas sûr non plus, ça veut dire grand-chose non plus, mais bon, voilà. En tout cas, on a des formes subjectives appréciatives sur les accents, c'est de réfléchir pourquoi et comment je veux accéder, en tout cas, à cet objectif-là. Et pour un exemple sur l'accent que je donne toujours, alors j'ai fait mes études à Lyon en anglais, je ne citerai pas de nom, mais en deuxième année, voilà, on nous a dit, vous décidez maintenant, soit c'est RP English, soit c'est General American, et j'ai fait un exposé, je travaillais sur Kiwi English, et donc forcément, j'avais dit, de manière inconsciente, mis des mots avec de la variation australienne, et j'avais été pénalisé parce que forcément, il y avait l'australien avec un peu de Happy English, avec un petit peu de français certainement, et donc ce n'était pas cohérent sur ces questions-là, mais certainement, si à cette époque j'avais le concept d'agentivité, j'aurais pu dire, voilà, moi, esthétiquement parlant, je suis français, donc forcément, il y a un peu de français au milieu, j'adore le Happy English, donc ça, on le retrouve un petit peu, et j'ai, pour des raisons de voyage, un peu d'australien, et donc voilà, enfin de Aussie English. Alors voilà, bon, simplement pour positionner sur les plans encore une fois théoriques, bon, je ne vais pas trop revenir, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, enfin, ça reprend un petit peu ces questions de continuum, avec toutes les théories qu'on connaît bien sur la question de l'imitation, la répétition, l'importance du renforcement cognitif aussi, parce que mon but, ce n'est pas de dire qu'on ne fait pas du tout d'exercice d'automatisation, puisque bien sûr, si un apprenant dit qu'il veut accéder à une forme normée, forcément, à un moment donné, il faudra faire du renforcement cognitif, parce que c'est un travail qui nécessite de transformer les connexions cognitives pour arriver à adopter un nouveau système phonologique. On est plutôt centré sur l'enseignant puisque c'est lui qui va déterminer bien sûr les ressources et les objectifs et la manière de progresser. À l'inverse, en tout cas, sur l'autre pôle en tout cas de choix didactique avec l'agentivité, le travail sur la sécurité linguistique, l'accompagnement, l'autonomie de Olek à Nancy. Alors bien sûr, dans tout dispositif, le but, ce n'est pas de dire on est tout à gauche, on est tout à droite, c'est de dire qu'on va avoir une répartition de ces choix-là qui vont se faire en fonction des objectifs des apprenants. Et la question qu'on pose toujours, c'est « oui, mais alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et je dis, il faut d'abord partir de vos apprenants, de vos étudiants, puisque c'est ça qui va déterminer. Si on me dit « voilà, moi, je donne des cours à des étudiants qui vont être dans des centres d'appel et on les recrute et ils ont besoin d'avoir un accent normé », ben, je ne vais pas leur dire « oui, ben, la variation, c'est super, gardez votre accent parce que c'est votre identité et qu'il n'est pas possibilité après d'être recruté ». Ce n'est pas ça l'objectif. Donc, on part des objectifs et des représentations des apprenants et on adapte le dispositif en fonction de ces objectifs. Et encore une fois, voilà, ça peut bouger en fonction des dispositifs, mais de manière un peu provocatrice et temporaire, en général, j'ai tendance à tout mettre à droite, voilà, pour provoquer des réactions et réfléchir sur une opposition avec une forme très corrective, monolithique, de la prononciation, même si, encore une fois, les enseignants ne sont jamais que correctifs. Ils font plein de choses dans leur panel de pratiques pédagogiques. Alors justement, sur cette question d'agentivité, alors c'est pas parce que je suis à Lyon, mais par rapport à ces différents travaux que j'ai pu faire, enfin, réflexions que j'ai eues et travaux que j'ai essayé de mener sur des situations interactionnelles, je trouverais en tout cas très intéressant, même si, alors c'est pas à vous que je vais l'apprendre, ça serait très compliqué d'arriver à filmer des situations réelles, authentiques, où l'accent devient quelque chose de thématisé. Alors peut-être qu'il y a déjà des choses dans le corpus, et peut-être que vous pourrez me dire s'il y a déjà des choses intéressantes. Mais ça pourrait justement être ce type de travail-là, en didactisant des situations réelles qui portent sur l'accent, en amenant les apprenants et les étudiants à se positionner en disant, voilà, dans telle situation, quels sont les éléments, les clés en tout cas interactionnelles qu'on peut mobiliser si on a envie de dire j'ai un accent, je suis légitime avec mon accent, et je suis sûr qu'on peut arriver à trouver un système interactionnel là-dessus. Et j'ai un exemple parce que j'ai fait un travail avec des anecdotes sur l'accent, et il y a une personne qui répondait justement dans une boulangerie, c'est une boulangerie ici, et qui dit qu'elle a demandé quelque chose, et la boulangère lui a dit, voilà, je vous donne deux pains au chocolat et deux croissants, comme si elle n'avait pas compris ce qu'avait dit l'apprenante. Et l'apprenante a réinversé la chose en disant, si, j'ai bien dit ça et ça, c'est vous qui avez mal compris, donc maintenant j'aimerais avoir ça et ça. Voilà. C'était un petit peu un côté extrême, mais je trouve en tout cas que ça serait intéressant, au-delà du fait de d'abord commencer par dire, voilà, on part sur un objectif de français normé ou d'anglais, tel ou tel anglais normé, c'est de partir sur des situations réelles en disant, voilà, il peut y avoir des situations sur lesquelles l'accent va devenir un thème interactionnel, mais on peut aussi jouer sur cet aspect-là dans l'interaction. Bon, assez rapidement, bon, c'est un exemple de dispositif, alors c'est une autre question, remarque, critique que je peux avoir, c'est en disant, oui, c'est super tout ça, mais bon, à partir du niveau B1, B2, parce que sinon c'est trop compliqué de le faire avec des niveaux débutants, et ni une ni deux, je me suis dit, bon, puisque c'est ce qu'on me reproche, en tout cas sur ce type d'approche, on a pris avec une collègue, avec Laurence Vigne à Rouen, des étudiants de niveau A2, des apprenants de niveau A2, et on a essayé de mettre en place justement une approche sur la réflexion autour de la variation des accents en français, de leurs accents, dès le niveau A2. Alors A1, on aurait pu le faire aussi avec d'autres ressources et d'autres outils. Mais donc le but, c'était de mesurer, donc c'est un travail qu'on est en train de faire, l'espace agentif dont disposent des étudiants de niveau A2, donc débutants, par rapport à ces questions d'accent. Et donc nos hypothèses de travail, c'était de penser que les apprenants débutants ont les ressources pour comprendre et s'adapter à la variation. En général, on a tendance à dire, parce qu'ils sont débutants, ils ne vont pas comprendre qu'il y a de la variation, que c'est compliqué, que c'est comme ça, c'est trop complexe, ça va les embrouiller. Donc nous, on part du principe inverse. Bon, on n'est pas les premiers à le dire, hein. Maurer l'a déjà dit, etc. Comme quoi, le fait de sensibiliser à la variation dans la francophonie n'est pas quelque chose d'excluant, au contraire, c'est quelque chose d'incluant. Qu'un dispositif qui porte sur la prononciation a aussi un objectif de sensibiliser à la variation, d'accompagner les individus dans leurs propres objectifs, et que l'enseignant n'est pas un modèle et ne détermine pas a priori le modèle à suivre. Pareil, rien de nouveau hein, sur ces questions de place de l'enseignant et de décentrer le dispositif. Bon, c'était un cours assez traditionnel, bon, co-animé, on était deux enseignants-chercheurs à le co-animer en alternance ou en coprésence, et donc on a quand même mené un travail assez traditionnel sur la question de la prononciation, une sensibilisation explicite à la variation diatopique et réalisationnelle, et à la fin, surtout ce qui était très important pour nous, c'était de réintégrer la prononciation dans une approche sociale, alors l'approche partage, hein, ça n'a rien de nouveau, mais très souvent la prononciation est décorrélée d'objectifs oraux, plus généraux, ce qui peut justement entraîner des phénomènes de désertion des cours de phonétique ou des laboratoires de phonétique qui finalement ne sont plus trop des laboratoires. Bon, très rapidement, vous pouvez lire rapidement un petit peu quel était le type de profil qu'on avait d'étudiants, d'apprenants, c'était assez hétérogène en termes de nationalité. J'ai simplement retenu quelques éléments du pré-questionnaire qu'on a fait. Alors, je trouve très intéressant aussi la question des modèles et des représentations. Et donc, vous voyez, quand on demande à des apprenants, qui a une trentaine d'années, est-ce qu'ils ont connaissance de célébrités ou de français ou de françaises dont ils aiment la façon de parler? Sur, je ne sais plus combien ils étaient exactement, j'ai perdu là, mais ils étaient une quinzaine. Sur une quinzaine, il y en a 10 qui disent non, alors qu'ils habitent en France depuis au moins 4, 5, 6 mois. Donc vous voyez déjà de pouvoir travailler sur ces représentations de quel type de locuteur, quel type de production en français j'aime, serait intéressante. Et bon, ici, bon, je vais aller assez rapidement, c'était tout ce qui est sur la question de l'autonomie guidée, comment on est amené à travailler sur des questions de prononciation en dehors du moment formel de la salle de classe fermée. Alors, simplement, pour conclure sur ce travail-là qui a été mené, c'est on a montré l'importance d'exprimer son avis sur son accent et dès le niveau A2, ils arrivent à produire des choses très intéressantes. Que le rôle de l'enseignant, c'est de s'employer à susciter l'adhésion, une forme d'ego phonétique ou ego langagier, qui est nécessaire au progrès aussi, et le fait d'accueillir, d'accompagner les représentations à la fois négatives et positives sur leur accent, en essayant de faire évoluer les premières. Donc comme je l'indiquais aussi tout à l'heure, si on travaille sur un plan de psychologie, on ne peut pas arriver dès le premier cours en disant « le français standard, ça n'existe pas, la norme, ça n'existe pas phonétiquement, il n'y a que de la variation, et donc on va déconstruire tout ça ». Forcément, on en perd à peu près les 2/3 si on arrive dès le début comme ça. Sur le fait qu'il est possible d'agir sur son accent et qu'il y a un rôle quand même émancipateur, facilitateur, et médiateur sur ces questions liées à l'accent, parce qu'en plus, on a souvent un sentiment d'impuissance face au fait de travailler sur son accent, qui prend beaucoup de temps, et ça, la méthode Verbotonal, elle a dit depuis très longtemps qu'il faut beaucoup de temps pour la question de la prononciation. Et expliquer aussi, alors plus ou moins, en fonction des niveaux, en fonction des attendus, les différences entre accent et intelligibilité et toute la variation qui existe à l'intérieur de ces éléments-là. Et pour anecdote, on a travaillé sur un petit extrait d'un locuteur normand, et il y a un des élèves qui dit « Ah ben moi, c'est super qu'on travaille sur ça parce que j'ai mon beau-père. » Alors, il était marié avec une Française normande. Et il dit à mon beau-père, il parle exactement comme ça et je n'avais jamais compris ce mot-là. Et là, puisqu'on a travaillé ensemble, j'ai compris ça. Et il était content ensuite de pouvoir participer, familialement en tout cas, à avoir travaillé sur la prononciation locale normande. Alors, juste pour terminer, de quoi emporter à la maison avant l'apéro, c'est de rappeler que toutes les variations de prononciation, la prononciation n'entraîne pas forcément des difficultés de compréhension, donc c'est de décorréler les deux partiellement, c'est pas total, que toutes les oppositions phonologiques n'ont pas la même fréquence d'occurrence, et par conséquent, il est possible d'établir des priorités dans l'enseignement-apprentissage de la prononciation, notamment le rendement fonctionnel, c'est pareil, ça n'a rien de nouveau, ça a été traité depuis très longtemps, mais peut-être qu'empiriquement, ça serait intéressant de pouvoir asseoir plus concrètement ces phénomènes de rendement fonctionnel entre deux langues. Le fait qu'on se soucie fréquemment de certaines caractéristiques de prononciation des apprenants qui peuvent être perçues simplement comme des traits d'une prononciation compréhensible en langue additionnelle, encore une fois, c'est mettre cette frontière entre être compréhensible avec un accent et être inintelligible, avec ou sans accent d'ailleurs, je rappelle tout. J'aime bien utiliser des extraits aussi de français francophone, dont on ne comprend rien, même s'ils n'ont pas d'accent. Que tous les apprenants ont les ressources pour entrer dans un travail agentif à tous les niveaux. Alors, c'est encore plus facile quand on travaille dans un contexte hétéroglotte, et donc on peut faire ce travail avec des niveaux débutants dans la langue première, mais il y a toujours des moyens, en tout cas, de pouvoir amener ce travail-là dès les niveaux A1 et encore plus facilement avec les niveaux C1, C2. Qu'il est normal que des activations croisées apparaissent chez des individus plurilingues. On voit très rapidement, en tout cas, le fait qu'avoir un accent, c'est fautif, et on revient sur la correction. Donc c'est rappeler que tout ce qui est, dès qu'on est plurilingue, dès qu'on a un répertoire plurilingue, forcément il y a des activations croisées à différents niveaux. Donc c'est le fait de questionner les retours formatifs, les feedbacks et les retours formatifs. Et notamment dans le CECRL, on retrouve beaucoup des éléments du type « est compréhensible malgré un net accent ». Donc on a toujours quelque chose de dépréciatif qui est lié à l'accent par rapport à l'intelligibilité. Que le rôle de l'enseignant est de permettre aux apprenants de se situer par rapport à leur accent, qui est inévitable en tout cas au début, souvent quand même inévitable quand même à la fin, on a toujours son accent qui peut revenir quand on est fatigué, quand on a bu un petit peu à la fin d'un confapéro, etc., etc. La question du mythe du natif, alors encore une fois qui est encore plus important en France avec ce rôle hexagonal du français standard, etc. Et donc l'importance de sensibiliser les apprenants aux accents dans une perspective esthétique. Donc déjà, avec des niveaux 1, on peut faire écouter des accents et de dire lequel on préfère, lequel est le plus joli, le moins joli. Je reviens un petit peu aux travaux de Phonage sur la psychophonétique et ce qu'on aime dans les accents ou pas. Bon, même si le côté très freudien de Phonage, bon, on peut mettre ça un petit peu de côté, s'intéresser plutôt au côté psychophonétique. Qu'il est possible de faire ce travail à tous les niveaux en adaptant bien sûr les consignes, les attendus et les façons de faire. Qu'une médiation de la prononciation nécessite un lâcher-prise de la part de l'enseignant par rapport à ses propres représentations. Forcément, les enseignants sont souvent quand même des passionnés de la langue qu'ils enseignent, mais ce n'est pas toujours le cas des apprenants. On n'a pas toujours les mêmes objectifs, on n'a pas toujours les mêmes rapports esthétiques aux langues et à la variation. Et donc, c'est là de permettre d'ouvrir d'autres objectifs que nos propres objectifs. Et je me livre toujours un peu en disant qu'en anglais, mon objectif, c'est feu la reine, c'est l'anglais de la reine. Bon, j'y arrive pas, je vous rassure ou pas, enfin, j'y arrive pas. Mais c'est parce que c'est esthétiquement mon objectif à moi que je vais le transposer, en tout cas sur des apprenants, si je devais enseigner l'anglais. Bon.